Et les autres favoris de cette Coupe du Monde, Nicolas ?
Alors évidemment, il y a notamment la France hein, qui est dans le groupe C. Il y a des groupes homogènes, vous le voyez ici à côté de moi. Et si vous le voyez, la France qui se trouve ici, eh bien la France est dans le groupe C, un groupe a priori facile pour les Français, champions du monde évidemment en 98. Ils feront face, vous le voyez, à l'Australie, notamment au Danemark et au Pérou. Et puis dans le groupe E, les Oliverdés, le Brésil, vous le voyez, le Brésil qui joue contre la Suisse, contre le Costa Rica et contre la Serbie. On est content du côté de Rio avec ce tirage. Et enfin l'Allemagne, championne du monde en titre, les Allemands qui ont un groupe aussi à leur portée avec, vous le voyez, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. A priori ces trois pays devraient être en huitième de finale, Jack.
Et voilà, pratiquement tout est dit, Nicolas qui va être avec nous tout le long de ce Washington Forum. Il anime chaque lundi sur VOA Afrique l'émission Sporama. Sans plus tarder, accueillons les autres invités via Skype de Douala, l'ancien gardien de but Joseph Bell, qui a évolué chez lui au Cameroun comme à l'étranger. Il a été couronné meilleur gardien africain de tous les temps. Et nous avons également évidemment d'autres invités en direct de Rabat au Maroc, le commentateur sportif Amine Birouk, et avec moi sur ce plateau Oumar Soumaré, ex-haut cadre du ministère sénégalais de la jeunesse et des sports. Il a également joué dans le championnat du Sénégal de première division avec Casa Sport avant de faire partie de l'équipe technique du club. Joseph-Antoine Bell, je commence par vous. Sur les cinq dernières Coupes du Monde, l'Afrique présente un médiocre bilan, malheureusement. Je vais tout droit au but. Quelles sont les chances africaines au Mondial 2018? Y a-t-il une chance de podium?
Déjà, bonjour à tous. Il y a eu de réelles préparations. Ce qui change cette fois, qui pourrait donner une réelle chance, c'est que je crois que tout le monde en a pris conscience. Les fédérations en ont pris conscience. La CAF en a pris conscience à un point tel qu'elle s'est donné les moyens de contribuer à la préparation en offrant de l'argent aux différents pays. Donc, je pense qu'effectivement, cette fois, on devrait pouvoir s'attendre à un meilleur comportement d'ensemble des équipes africaines.
D'accord. Et évidemment, on parle beaucoup du Nigeria. Et là, on va écouter justement l'Allemand Gernot Rohr, conseiller technique de l'équipe nationale du Nigeria. Nous l'écoutons.
C'est un tirage difficile pour le Nigeria parce que l'Argentine est numéro 4 mondial, vice-champion du monde. En plus, la Croatie a l'habitude également de faire des bons tournois, que ce soit des championnats d'Europe ou des championnats du monde avec de très grands joueurs. Et l'Islande, on le sait, a une équipe très solide, supportée par des fans extraordinaires et par des gens qui sont acquis à leur cause. Donc ça ne va pas être simple. Le Nigeria, qui est quatrième chapeau, ne sera pas favori. Mais on est des outsiders ambitieux et on a envie, malgré tout, de sortir de ce groupe.
Voilà, Gernot Rohr de l'équipe nigériane. Amine Birouk, l'Afrique du Nord est en force. Égypte, Maroc, Tunisie. Pouvez-vous nous jauger leurs forces et faiblesses?
Faut déjà dire que ces trois sélections se sont absentées de la Coupe du Monde depuis fort longtemps. La Tunisie 2006, le Maroc 98, l'Égypte 90. L'Égypte est peut-être la mieux lotie en termes de tirage au sort puisqu'elle se retrouve dans le groupe du pays hôte avec l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Elle possède un sérieux vécu dans les compétitions africaines, mais paradoxalement, elle n'a jamais réussi depuis 1990 à atteindre les phases finales de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, elle dispose d'un groupe expérimenté avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. Nicolas Pino a parlé tout à l'heure de l'équipe de Liverpool avec Mohamed Salah. Il y a également une Nini qui évolue au milieu de terrain de l'équipe d'Arsenal. Et l'équipe est drivée par un certain Hector Cooper qui a une grosse expérience des compétitions européennes. Il est entraîné dans de grands clubs comme l'Inter de Milan ou Valence. Et aujourd'hui, au vu de la progression de l'Égypte qui avait manqué les trois dernières CAN, mais qui a réussi quasiment un sans faute lors des éliminatoires, qui a été en finale de la CAN, il y a de sérieux chance. Du côté du Maroc, l'attente a duré longtemps. Il y a eu 20 ans d'attente, 20 ans d'échecs et de frustrations. Aujourd'hui, les choses sont sur de bons rails, avec une fédération qui a mis le paquet pour que l'équipe puisse se qualifier en Coupe du Monde, avec un sélectionneur qui aura son baptême de feu dans cette compétition, mais qui connaît l'Afrique, qui a une mentalité de leader, qui a réussi à transformer des individualités douées en un groupe solidaire. Preuve en est, la qualification du Maroc, elle s'est dessinée à Abidjan, sur le terrain des redoutables éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis la Tunisie, avec un football plus structuré, avec des clubs qui font souvent bonne figure dans les compétitions africaines et qui aujourd'hui disposent d'une génération de joueurs avec des capacités techniques au-dessus de la moyenne, et puis surtout une grinta et une culture tactique qui pourrait créer plus d'une surprise lors de cette Coupe du Monde. Pour le moment, l'Afrique du Nord a réussi à placer 3 candidats sur 5. C'est quand même une tendance nouvelle dans le football africain, et c'est la preuve que l'Afrique du Nord revient en force dans cette Coupe du Monde.
Et voilà. Oui, il y a également le retour du Sénégal, n'est-ce pas, après une attente de 16 ans, Oumar Soumaré. Pourquoi une si longue attente, et quelles sont les lacunes, d'après vous, qui restent à combler ?
Oui, en fait, 16 ans, mais ça peut s'expliquer parce que le niveau du football africain commence à se mobiliser et puis à être au même niveau pour tous les pays. Je me rappelle encore lors de la Coupe du Monde au Brésil, nous avons été éliminés avec la Côte d'Ivoire. Mais en fait, si tu prends la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, c'est tous des équipes qui sont au même niveau. Donc, pour une petite malchance, vous êtes dehors. C'est ce qui s'est passé pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, cette année.
Et puis, il ne faut pas oublier que le Sénégal, c'est un pays qui met le paquet sur la lutte traditionnelle. Donc, c'est un peu un tour de force que cette équipe a réussi récemment de se faire qualifier.
Oui, la lutte traditionnelle est en fait notre sport national. Oui. Mais le football est le plus pratiqué. Ça ne doit pas poser un problème pour les pays africains de pouvoir vraiment passer le cap des quarts de finale. Oui. Parce que l'objectif pour tous les pays africains, c'est d'aller en fait au-delà des quarts de finale.
Et qu'en est-il de l'actuel sélectionneur des Lions, Aliou, si c'est lui-même en fait ancien capitaine de cette équipe? Est-il l'architecte de ce récent succès?
Oui, mais il fait partie des architectes. Parce qu'en fait, le succès du Sénégal...
Vous ne voulez pas lui donner tout le crédit?
Non, le succès du Sénégal ne dépend pas seulement du technicien. Oui. Il y a une fédération, il y a le ministère, il y a toute une réforme qui a été faite pour qu'on en arrive à ce niveau-là. Oui. Bon, on a des joueurs qui évoluent dans le championnat anglais, dans le championnat français. Donc, il y a un bon groupe qui peut permettre au Sénégal de faire quelque chose.
Oui, et d'ailleurs, on verra ce que Gernot Rohr, le sélectionneur de l'équipe nigériane, ce qu'il fera évidemment pour cette équipe. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana n'ont pas pu arracher de ticket cette fois. Nicolas, que s'est-il passé pour ces élites du foot africain ?
Industriel, peut-être notamment pour la Côte d'Ivoire, Amine Birouk le disait, qui a été rejoint après évidemment 3 matchs catastrophiques face au Gabon, face au Mali et la défaite évidemment à Abidjan face aux Marocains. On est peut-être dans une transition, en tout cas chez les Ivoiriens, à digérer les absences évidemment de Yaya Touré et de Didier Drogba. Pour les Camerounais, finalement leur titre à la CAN 2017 n'a été qu'éphémère. Hugo Brousse a été limogé cette semaine. Cette génération dorée qui prépare la CAN 2019 n'a pas réussi à se qualifier, et c'est un faux pas assez important. Ils étaient dans le même groupe que l'Algérie également mondialiste 2014 et le Nigeria qui s'en est sorti. Ouais. Enfin, pour le Ghana, c'est assez dommage évidemment pour cette jeune génération emmenée par les frères Ayou, qui d'habitude est si talentueuse, notamment sur la scène mondiale et sur la scène continentale. On ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé pour les Ghanéens qui ont été éliminés dans le groupe de l'Égypte.
Brièvement, Amine Birouk, la phase qualificative a-t-elle en quelque sorte redessiné la carte du foot africain, d'après vous ?
Tout à fait, avec des valeurs en hausse. On parle de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal. Hormis le Nigeria qui était présent lors de la dernière Coupe du Monde, il y a une refonte un peu du football africain. Ça s'est déjà esquissé lors de la dernière CAN avec la présence de l'Égypte en finale, du Maroc en quart de finale. Aujourd'hui, cette tendance est confirmée vers la fin des éliminatoires. Il va falloir maintenant compter sur ces sélections, voir de quelle manière elles vont se préparer pour la Coupe du Monde, parce que le Sénégal en 2002, le Cameroun en 90 et le Ghana en 2010 ont passé la barre très haut en atteignant les quarts de finale.
En tout cas, ça m'a l'air d'être une belle soirée là-bas chez vous à Rabat. Je vous propose maintenant deux commentaires Facebook. Issaka Boukari, Basila Bénin. L'Égypte ira très loin au prochain mondial. La Tunisie sera éliminée dès le premier tour. Le Maroc va franchir les huitièmes. En tout cas, nous prenons bonne note de vos prédictions, Issaka. Aristide Dadje, N'Djamena Tchad. Les dirigeants africains du foot sont vraiment égoïstes et eux-mêmes touche l'argent des joueurs. Les primes sont l'élément de motivation. Et voilà, Dadje Aristide, qui sait, peut-être un lien de parenté. En tout cas, merci de nous tendre la perche, parce que ce sera l'une des questions que nous allons aborder dans la deuxième partie de Washington Forum. Après ça.
Pour le Sénégal par rapport aux autres favoris comme l'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine et la France. Bon, pas ça, c'est un bon tirage.
Le tirage au sort est un tirage vraiment favorable pour le Sénégal. On ne peut pas tomber mieux, hein. Franchement, vu la qualité de toutes les équipes qualifiées. Alors là, on peut dire que le Sénégal a hérite d'une poule vraiment jouable.
On est très heureux que la Tunisie aille réussi. Il faut qu'ils travaillent davantage, parce qu'avec l'équipe qu'on a, on ne va pas aller loin. Pour beaucoup de raisons. On n'a pas de joueurs qui jouent dans les grands championnats. Beaucoup moins qu'avant, en tout cas. Pourquoi pas avoir un coup de chance. On fait un match nul avec la Belgique et l'Angleterre, et on bat le Panama. Et du coup, il restera juste l'Angleterre et la Belgique qui doivent s'affronter pour passer. Et pourquoi pas, nous on passe avec ces chances-là. Et on passe aux deuxième phase. Nous, on joue au foot pour le foot. Si on passe, tant mieux. Sinon, on fera mieux la prochaine fois.
C'est une bonne nouvelle pour nous, les Tunisiens. Ça va nous donner ça va nous montrer au monde. Je suis très contente pour cette nouvelle.
Oh mon Dieu, j'espère vraiment qu'on passera les premiers tours, même si je sais qu'au fond, on n'ira jamais en finale. Mais au moins, ça, ce serait bien.
Il reste 6 mois pour la préparation. On va voir avec les matchs amicaux. J'ai l'information qu'on a un match avec la Russie, un match avec Portugal et on a un stage en Suisse. C'est vrai, sur les papiers, on est c'est un peu difficile, mais sur terrain, tout est possible.
Voilà pour ces réactions du côté de Tunis et de Dakar. Pardon, un petit problème technique pour la connexion avec New York. Nous sommes de retour en direct dans ce studio ici à Washington. C'est Washington Forum pour vous parler évidemment de cette Coupe du Monde 2018. Et la question qu'on se pose, on va retourner à Douala, retrouver l'ancien international camerounais, Joseph-Antoine Bell. Alors, Joseph-Antoine, évidemment, on a cette question de savoir pourquoi temps. Et alors, on me fait signe qu'on a également perdu notre ami Joseph Antoine Bell, qui était avec nous depuis Douala. On rappelle qu'on parle toujours de cette Coupe du Monde. Nous sommes évidemment avec Amine Birouk, qui est avec nous depuis Rabat. Également à New York, l'ancien joueur sénégalais Oumar Soumaré. Il était également avec nous depuis New York. Et Nicolas Pineau, pour vous servir ici dans les studios de Washington. On rappelle évidemment que l'enjeu pour les équipes africaines, c'est bien évidemment de pouvoir accéder aux demi-finales. Ce serait une première dans l'histoire. On va poser la question à Amine Birouk, qui est avec nous depuis Rabat. Amine, on le disait, la Confédération africaine de football qui a mis 500 000 dollars par équipe pour cette préparation. On a vu également que le Nigeria a d'ores et déjà réglé ses problèmes de primes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on met toutes les chances du côté des équipes africaines sur cette Coupe du Monde 2018?
C'est une prise de conscience, Nicolas Pineau, importante, parce qu'on a eu souvent droit à des querelles de clochers avec les Camerounais qui faisaient grise mine parce qu'ils n'avaient pas perçu leur prime de qualification. Les Nigériens, lors de la dernière Coupe du Monde, avaient également esquissé un mouvement de grève et cela avait failli compromettre leur chance, alors qu'ils avaient toutes les possibilités d'aller même au-delà des huitièmes de finale où ils s'étaient arrêtés. Cette fois-ci, la CAF a pris conscience que l'Afrique doit mettre tous les atouts de son côté. Financièrement, le nerf de la guerre, c'est une bonne préparation, c'est donc beaucoup d'argent, c'est un investissement pour pouvoir avoir un bon camp de base en Russie, c'est des matchs amicaux dans de bonnes conditions face à des adversaires prestigieux, c'est un stage de préparation pour préparer les derniers détails avant de débarquer sur le territoire russe qui doit être, je dirais, ficelé au détail près. Voilà des choses que l'Afrique avait oubliées lors de certaines préparations de Coupe du Monde. Aujourd'hui, la Confédération africaine a l'ambition d'avoir une sélection en quart de finale, au moins au-delà du premier tour. Il faut véritablement mettre tous les atouts du côté de l'Afrique, croire en l'Afrique, croire en dans les possibilités de ces talents qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Et pour cela, il faut des structures, de l'argent et une organisation méthodique.
Merci Amine, on verra ça bien évidemment cet été en Russie. Et voilà, la magie de la technique, on a retrouvé Jacques Aristide un peu plus haut à New York. On vous retrouve Jacques.
Oui, absolument, il fait très froid en tout cas ici Nicolas. Évidemment c'est une émission en direct et donc il y a quelques aléas, comme on le dit, des aléas du direct. Je voudrais m'adresser à vous Oumar Soumaré et je voudrais revenir sur cette question d'entraîneur. Pourquoi y a-t-il si peu d'entraîneurs africains sur le continent? Et je voudrais aussi aborder la question d'entraîneurs en Europe. Il y a beaucoup de joueurs, mais vraiment, pratiquement pas d'entraîneurs. Donc d'abord, en Afrique, pourquoi très peu d'entraîneurs?
Mais c'est correct, parce qu'il y a d'abord plusieurs problèmes.
Oui.
Et quelques années, 5-10 ans, il était difficile d'avoir un entraîneur africain.
Oui.
Parce que finalement, tout le monde voulait être entraîneur de l'équipe nationale et il y a une certaine compétition. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, après avoir essayé l'autre formule, ça veut dire d'amener des entraîneurs étrangers, ça n'a pas marché.
Oui.
Donc, les gens se sont dit, mais il faut essayer avec nos entraîneurs africains. On a essayé aujourd'hui avec Aliou. Ça semble être un bon choix,
oui.
Mais il faut continuer. Mais il n'y a pas à se faire de doute. Les entraîneurs africains sont capables.
Oui.
Il suffit de les mettre dans les conditions, dans les conditions de pouvoir réussir.
Oui.
Si tu prends un entraîneur étranger et tu le payes des millions, alors que tu prends un entraîneur africain, tu le payes des miettes, bien entendu, les conditions n'y seront pas. Il faut le mettre dans de bonnes conditions et vraiment passer le problème des primes.
Oui.
Parce qu'un entraîneur ne peut pas être là en train de discuter de problèmes de primes.
Ouais, d'accord. Et en fait, je disais que j'aurais aimé également parler d'entraîneurs africains en Europe. Joseph Antoine Bell est de retour avec nous. Donc, pas seulement en Afrique, Joseph. Il y a beaucoup de joueurs africains en Europe, mais pas d'entraîneurs. Pourquoi les clubs européens ne donnent-ils pas la possibilité à ces joueurs africains qui ont évolué au plus haut niveau en Europe de montrer ce qu'ils peuvent faire en dehors du terrain?
Je pense qu'il y a un problème culturel. Malheureusement, partout ailleurs au monde, ça s'est passé comme ça. Il y a une période d'évolution. Les joueurs africains devront se battre, puisque à valeur égale, ils ne jouent pas. Il faut qu'ils soient supérieurs de la même manière, à intelligence égale. Lorsque leur carrière est achevée, On donnera du travail, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on donnera du travail au fils du coin et on percevra le joueur africain comme étranger. D'ailleurs, vous souvenez peut-être qu'il y a une polémique il y a 3 ou 4 ans en arrière où un entraîneur, un ex-joueur, a pu déclarer que les joueurs africains étaient moins intelligents. Je m'étais insurgé dans la mesure où ce jeune homme avait joué dans un club, Saint-Étienne pour ne pas le nommer, dans lequel j'ai joué. Après, il entraînait Bordeaux où j'ai été. Et je me suis interrogé si à Saint-Étienne ou à Bordeaux, on a le souvenir d'un Joseph-Antoine Bell qui était un garçon pas intelligent. Donc, je crois que ce n'est pas ça du tout. C'est que nous avons la pesanteur sociale. Le racisme existe et il est devenu culturel à certains niveaux. Et donc, il faut se battre pour un jour prouver que vous pouvez. Moi, lorsque je suis arrivé en France comme gardien de but, il n'y avait pas de gardien de but noir. Aujourd'hui, je les vois, il y en a qui sont remplaçants. À l'époque, on pensait qu'un gardien de but ne peut pas être noir parce qu'il faut être intelligent, il faut être technique, il faut être ci et ça, et qu'un Africain ne pouvait pas avoir ces qualités-là. Donc, je pense que c'est simplement ce frein-là.
Malheureusement, Joseph, on a un petit problème d'audio avec vous, mais on va continuer. En tout cas, le dernier nom peut-être qui me revient à l'esprit, c'est Claude Makélélé, hein, l'ancien international français d'origine congolaise, entraîneur du SC Bastia en 2014. Je voudrais maintenant vous proposer rapidement deux derniers commentaires Facebook. Idrissa Ndiouk, Dakar, Sénégal. À mon humble avis, chacune des cinq équipes africaines qualifiées peuvent créer la surprise. Et il y a Kofi Abidjan, Côte d'Ivoire. Les équipes africaines peuvent aller loin dans cette compétition si elles ne vont pas à cet événement sportif planétaire en victimes résignées et si elles admettent aussi que le football n'est pas une science exacte. Bien évidemment, Nico, hein, c'est pas une science exacte, mais beaucoup d'attentes du côté africain concernant toutes ces équipes qui prendront part l'année prochaine à la Coupe du Monde.
Moi, il y a une attente et je pense déjà au niveau de l'image, hein, on a vu que le Nigeria avait réglé en avance le problème des primes, hein, 2,4 millions de dollars déjà répartis entre les joueurs. On attend vraiment, en tout cas de l'envie sur le terrain, il y en aura certainement, mais on a envie que les Africains, en tout cas les 5 représentants du continent, puissent briller et puissent atteindre et aller assez loin dans cette compétition. Joseph-Antoine Bell le disait, hein, on a des talents africains, on a des joueurs extraordinaires qui brillent dans les plus grands européens. On prend l'exemple, par exemple, pour le Sénégal de Sadio Mané ou de Mohamed Salah pour Liverpool. Eh bien, ces talents, et en tout cas les équipes nationales, on espère qu'elles vont pouvoir briller et aller le plus loin possible. Et notamment, le défi, c'est la demi-finale. Hein. Pour un pays africain, ce serait une première.
Oui, Amine, très rapidement, on sait que le football est roi en Afrique, on le voit à chaque Coupe d'Afrique des Nations, événement fédérateur, n'est-ce pas, qui fait vibrer tout un continent, mais l'Afrique peut-elle espérer enfin décrocher cette Coupe du Monde, pourquoi pas?
Bah, ce sera compliqué, mais il faut juste rappeler d'où vient l'Afrique. L'Afrique, le premier pays qualifié au-delà du premier tour, c'était le Maroc en 1986. Depuis lors, les sélections ont franchi échelon par échelon. Il y a eu les huitièmes de finale. Il y a eu 3 sélections qui ont été en quart, qui ont même failli se qualifier. On se rappelle d'un Cameroun-Angleterre d'anthologie en 90. Il y a eu Ghana-Uruguay en 2010 où, s'il n'y avait pas eu cette main maudite de Luis Suarez, je pense que les Black Stars auraient été en demi-finale en Afrique du Sud. Donc il va falloir ce petit coup de pouce du destin parce que le talent ne manque pas en Afrique. Il va falloir aussi mettre un peu de rigueur pour pouvoir franchir le premier tour et puis prendre le reste de la compétition match par match.
Oui. Voilà, le talent ne manque pas en Afrique. Un peu de rigueur, Oumar Soumaré, vous partagez cet avis?
Oui, le talent ne manque pas. Je disais encore tout à l'heure que quand tu vois dans le championnat anglais, le championnat français, nous avons des représentants, des joueurs qui se donnent, Ben Salah, Sadio Mané, des joueurs qui ont beaucoup de talent et qui s'imposent, qui s'affirment. Et on en a beaucoup. Pourquoi pas organiser notre football au point de pouvoir un jour décrocher la Coupe du Monde, pourquoi pas cette année? C'est un problème de choix tactique, c'est un problème de travail, parce qu'aujourd'hui, les équipes, sur le plan de l'élaboration du jeu, nous avons du travail à faire.
Et voilà, bonne chance à nos 5 équipes africaines. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités, merci à nos collègues de Washington et New York. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt. Take care.
plus de nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.